l'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Les mercredis à 20h30, salle Rabelais, la ville de Montpellier propose une trentaine de conférences destinées au grand public.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Il y a beaucoup de choses en nous.
La restive de sirène jusqu'au mur de mai 68.
Que nous ignorons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
La science est un discours.
Mercredi de novembre, comment savons-nous ce que nous savons? Ce que nous disent aujourd'hui les physiciens de leurs recherches et découvertes met souvent à mal notre sens commun, nos manières de voir et de nous représenter le monde. Au fin fond de la physique moderne se trouve l'idée, assez platonicienne, qu'il existe deux mondes distincts. Mais quelle est la nature du lien qui existe entre les théories? Étienne Klein, physicien, directeur de recherche au CEA et docteur en philosophie des sciences, répondra à cette question dans ce nouveau numéro de l'Agora des Savoirs.
Bonsoir à tous, je voulais commencer par dire que je suis très heureux d'être à Montpellier ce soir où j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de souvenirs aussi. Et je voulais remercier Muriel pour sa présentation, ainsi que Régis Penalva qui m'a téléphoné il y a quelques mois pour m'inviter à venir ce soir, Philippe Sorel et puis la mairie de Montpellier, le conseil scientifique d'Agora, auquel j'appartiens, mais donc je ne me remercie pas dans le lot commun, je m'exclus de mes remerciements. Et donc, lorsque, il y a quelques mois, Régis Penalva m'a appelé, je lui ai répondu, parce qu'il était assez pressé d'avoir un sujet, en me disant que ce serait bien que quelqu'un parle de la question de savoir comment on sait ce qu'on sait. Sans imaginer qu'en disant cela, c'était à moi que revenait la tâche de présenter ce sujet, qui est le sujet le plus difficile que j'ai jamais eu à traiter. Et donc, je suis très intimidé ce soir de parler de cette question, alors que je sais que dans le public, ça je sais que je le sais, il y a de nombreux professeurs de philosophie. Mais en fait, je voudrais surtout commencer cette conférence en prononçant le nom d'Elisabeth Cassou-Barbier, non pour évoquer explicitement sa mémoire, car je ne crois pas que j'aurais la force de le faire en public, mais pour que son nom et toute la personne qu'elle était résonnent dans cette salle Rabelais qu'elle a fréquentée assidûment, et aussi pour que vous sachiez que je lui dédie cette intervention. Donc je reviens à la question posée, qui est comment parvenons-nous à connaître? Comment pouvons-nous savoir que nous savons? Et comment pouvons-nous savoir ce que nous savons? La connaissance, c'est manifestement un problème, du moins dès que l'on s'attarde à interroger ce qu'elle représente. Elle est un problème qui exige des théories, sauf à sombrer dans un scepticisme aussi radical qu'indépassable, consistant à penser que la seule connaissance qui soit certaine consiste à dire qu'aucune connaissance n'est certaine. Alors ces théories de la connaissance, elles existent. Elles ont même des noms que je vais citer par ordre alphabétique, donc sans tenir compte de leur poids historique ou de leur légitimité. Ces noms sont par exemple béhaviorisme, connexionnisme, constructivisme, empirisme, fonctionnalisme, idéalisme, innéisme, phénoménologie, positivisme tout court, positivisme logique, rationalisme, réductionnisme, sensualisme, structuralisme, et je pense que j'en oublie au moins la moitié. Les expliciter prendrait évidemment trop de temps et j'en serais de toute façon incapable. Et donc ce que je me propose de faire, c'est plutôt de commencer par une courte présentation du problème de la connaissance, de l'acte de connaître, d'une façon qui sera modestement philosophique, et ensuite de vous parler plus à l'aise en tant que physicien, en tentant de traiter la question suivante. Qu'est-ce que les théories physiques permettent de connaître ? Quel lien y a-t-il entre les théories physiques et la réalité physique qu'elles prétendent décrire ? Est-ce qu'elles les rencontrent ? Est-ce qu'elles rencontrent la réalité ? Est-ce qu'elles entrent en contact ? Si oui, ne le font-elles que de façon superficielle ? Ou bien les rencontrent-elles en profondeur ? Arrive-t-il aux théories physiques de divaguer ? C'est-à-dire de dire à propos du réel des choses qui ne sont pas réelles ou qui sont excessivement incertaines ? Ne risquent-elles pas ces théories physiques parfois de s'engager trop loin et ainsi de devenir des métaphysiques mathématiques ou d'immortelles conjectures qu'il serait impossible de tester ? Le risque qu'encourent les physiciens théoriciens, on le sait depuis très longtemps, c'est de voir des faits au fond du jardin. Est-ce qu'il y a un moyen de se prémunir contre la prolifération de ces faits fictifs ou de ces chimères théoriques auxquelles on accorde parfois beaucoup de crédit ? Je vous parlerai peut-être à la fin du boson de Higgs, qui est peut-être, dont j'ai beaucoup parlé ici, je crois, il y a 2 ans, et qui fait peut-être partie de ces faits fictifs. Alors, je commencerai par quelques notions assez simples sur lesquelles, je crois, nous tombons tous d'accord. La première, c'est que pour qu'une théorie de la connaissance soit envisageable, il faut au moins que soit clairement distingué le sujet qui connaît et l'objet à connaître. Pour adhérer à l'idée qu'il peut y avoir des théories de la connaissance et ne pas la juger d'emblée trop abstraite, il faut qu'une certaine expérience cognitive minimale soit faite, au terme de laquelle le sujet a dû éprouver la résistance de l'objet, ce qu'on pourrait aussi appeler la récalcitrance du monde extérieur. Il faut sentir que le monde extérieur n'est pas nous, il est différent de nous, et on se trouve ainsi, en quelque sorte, déniaisé sur ses dispositions à connaître la réalité. En d'autres termes, pour songer qu'il est utile et même nécessaire de fonder une théorie de la connaissance, il faut faire l'expérience d'une séparation qui consacre la révélation du doute, comme celle que Hegel décrit dans le premier chapitre de la phénoménologie de l'esprit, la conscience qui s'éprouve d'abord dans ce que Hegel appelle la certitude sensible, c'est-à-dire la conviction que les sens ne nous trompent pas, en vient vite à désespérer d'elle-même en découvrant l'extrême précarité de son savoir. Et elle finit par se résoudre à la nécessité d'une réflexion théorique sur son pouvoir de connaître. L'objet, ce n'est pas moi. L'objet a une réalité propre. Il est autonome, en quelque sorte, par rapport à moi. J'ai ma réalité. Comment puis-je le connaître alors qu'il n'est pas moi ? Pour le dire dans les mots que Hegel utilise, comment ce qui est en soi peut-il devenir pour moi ? Telle est en somme la formulation philosophique du problème de la connaissance qui met au premier plan la notion de représentation. Ce problème peut être résolu très simplement, il l'a été par des philosophes qui tâchent de surmonter ou de neutraliser l'espace qui sépare le sujet de l'objet. Ce peuvent être des penseurs de la totalité ou de l'harmonie cosmique, ou bien des théoriciens de l'expérience mystique qui associent la philosophie à la quête de l'unité absolue, du grand un, confusionnant et en général confus. Alors ces thèses qui suppriment la distance entre le sujet et l'objet, je vais les laisser de côté, non pas parce que je voudrais les discréditer, mais plutôt parce que je préfère assumer d'emblée la rupture entre le sujet qui connaît et l'objet qui gagne à être connu. Ce qui me permet d'ailleurs d'avancer que la connaissance, quand on la définit minimalement, est la mise en relation d'un sujet et d'un objet par le truchement d'une structure opératoire. C'est d'ailleurs dans ces termes que Jean Piaget caractérisait le processus cognitif, et personnellement, je n'y trouve rien à redire. Il dit que chaque fois qu'on énonce une proposition traduisant un savoir, ces 3 éléments que je viens de citer, le sujet, l'objet et la structure, se trouvent mobilisés. Et d'ailleurs, dans son ouvrage sur la question, Piaget propose 2 exemples pour illustrer son propos qu'il est intéressant de reprendre ici, je pense. Premier exemple, je dis qu'une truite est un poisson. Il s'agit là d'un énoncé qui manifeste qu'un sujet a procédé à une opération de classification au terme de laquelle il peut identifier un objet comme appartenant au genre poisson. Second exemple, plus complexe mais qui satisfait à la même description, les corps s'attirent en raison directe de leur masse et en raison inverse du carré de leur distance. La loi de Newton pour la gravitation. C'est une proposition qui suppose un sujet, Newton, ayant mis les objets du monde en relation grâce à des structures cognitives, qui sont en l'occurrence des fonctions, des nombres ou des coordonnées spatiales. Et donc, on voit par là qu'une théorie de la connaissance digne de ce nom se doit de préciser l'origine et la nature des structures que le sujet doit solliciter pour décrire l'objet auquel il est confronté. Et il est assez facile d'ailleurs de proposer une typologie des différentes solutions qui peuvent être avancées, autrement dit des différentes sortes de théories de la connaissance. En effet, les structures, le troisième élément dont parle Piaget, les structures en question peuvent appartenir soit au sujet, soit à l'objet, soit à la fois au sujet et à l'objet, soit exclusivement à leur relation, ou bien, cinquième et dernière possibilité, ces structures peuvent ne relever ni de l'un ni de l'autre, ni du sujet ni de l'objet. Et à chacune de ces hypothèses, qui consiste à localiser l'endroit où se trouve la structure ou les structures, quelque part entre le sujet et l'objet, correspond à un type de théorie de la connaissance qu'on peut nommer de façon très sommaire de la façon suivante. Si on met tout sur l'objet, ça s'appelle de l'idéalisme. Si on met tout sur l'objet, ça s'appelle de l'empirisme. Si on met ces structures à la fois sur le sujet et sur l'objet, c'est du constructivisme. Si on les met sur leur relation, c'est du structuralisme. Et si on les met ailleurs, ni sur l'un ni sur l'autre, ça peut être de l'idéalisme de type platonicien ou encore autre chose. Alors évidemment, cette manière brutale d'appréhender l'espace intermédiaire qui sépare le sujet de l'objet est, comme je viens de le dire, très brutale. Mais la brutalité, parfois, ça a des avantages. Et en l'occurrence, ça permet de comprendre comment la logique est devenue, à la suite d'Aristote, la science des structures générales qui s'interpose entre le sujet connaissant et l'objet à connaître. Si la logique s'était polarisée sur le sujet, cette logique se serait vite confondue avec une simple psychologie. Ce que d'ailleurs elle pourrait redevenir si les sciences cognitives continuent à nous informer sur les fondements mêmes de la logique. Si elle s'était centrée sur l'objet, elle se serait assimilée à une ontologie. Mais attachée à l'espace intermédiaire entre le sujet et l'objet, la logique se définit par conséquent comme l'étude des conditions formelles de la vérité, ce qui est bien le statut qu'on lui confère aujourd'hui. Reste qu'une véritable théorie de la connaissance doit se distinguer d'une simple logique, et elle s'en distingue en ce qu'elle ne se borne pas à décrire la structure qui conditionne la production de la vérité. Elle doit chercher en outre à évaluer la part qui revient au sujet et à l'objet dans la constitution d'un savoir. C'est ainsi que la réflexion philosophique sur l'acte de connaître a eu tôt fait de poser une alternative qui reste aujourd'hui vivace, notamment dans les débats qui tournent autour de l'interprétation de la mécanique quantique. Cette alternative est la suivante: ou bien la connaissance n'est que le résultat de l'enregistrement dans le sujet d'informations déjà organisées dans le monde extérieur, ou bien elle est produite par le sujet qui possède la faculté d'agencer les données immédiates de la perception. Alors, vous connaissez les grands noms qui se sont engouffrés dans ce débat: Descartes, Locke, Leibniz, Hume, pour qui connaître c'est croire, Kant, pour qui connaître c'est construire. Voilà les protagonistes du débat qui s'est ainsi ouvert et qui est devenu canonique dans l'histoire de la philosophie. Et donc, si vous me promettez tous de lire l'intégralité des œuvres de ces grands hommes, je pourrais m'épargner la tâche d'avoir à les évoquer. Et pour tout dire, j'ai décidé de faire le pari que vous alliez tout lire, sans garantie de votre part, ce qui me soulage d'un poids énorme. Je me contenterai quand même d'une remarque, parce que j'ai relu, en préparant cette conférence, quelques-uns des auteurs, et puis d'autres plus avancés dans l'histoire, comme Platon par exemple, et cette idée que la connaissance n'est que le résultat de l'enregistrement dans le sujet d'informations déjà organisées dans le monde extérieur, on la trouve quasiment telle qu'elle dans le Théétète de Platon. C'est l'idée que les dispositions du sujet connaissant proviennent de l'action des objets qui s'exercent sur lui. C'est la théorie de l'esprit sot. Alors sot, c'est S-E-A-U. Platon écrit ceci: notre esprit est un sot. À l'origine, il est vide, ou à peu près, et des matériaux entrent dans le sot par l'intermédiaire de nos sens, ou éventuellement à travers un entonnoir pour le remplir par le haut. Ils s'accumulent ainsi et sont digérés. Bon. Alors aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, certains spécialistes des neurosciences, dans la lignée de Jean-Pierre Changeux par exemple, défendent la thèse exactement inverse. Ce n'est pas la thèse de l'esprit sot, c'est la thèse de l'esprit qui projette ses structures sur le monde même. Et ces chercheurs tentent de développer ce qu'ils appellent une théorie reproductive de la connaissance, en explorant les relations qui existent entre structure cognitive et structure théorique. Leur idée, dont je ne sais pas si elle est à prendre au sérieux ou pas, sans doute que oui, d'après les connaissances qu'ils accumulent, leur idée, c'est que lors de la construction d'un édifice théorique, l'être humain ne fait que reproduire et plaquer à son insu les structures et les propriétés de son propre système cognitif sur les phénomènes qu'il tente d'expliquer. Donc l'édifice théorique qui aboutit, qui est le résultat plutôt de cette opération, qui est censé soit offrir un modèle descriptif de la réalité objective, soit en percer partiellement le mystère, s'en trouve donc construit et structuré comme le sont nos facultés cognitives. L'idée, en somme, c'est qu'il n'y a pas d'invention, que l'acte de connaître, et même la recherche, n'est pas un acte créatif ni inventif. L'idée, c'est que le cerveau projette ses structures sur le monde, quitte à recevoir des messages du monde qui lui montrent que ses structures ne sont pas les bonnes, à les modifier et à reprojeter ce qui aurait été défini ou structuré par ces structures cognitives modifiées par le poids ou le signal qui vient de la réalité. Alors bien sûr, Kant est un précurseur de cette conception. Sa critique des facultés de l'esprit humain l'a conduit à proposer une déduction transcendantale, comme on dit, du savoir scientifique, en l'occurrence de la mécanique de Newton, à partir de considérations sur les propriétés et la structure de ce qu'il nomme l'entendement. Certains proposent aujourd'hui, ce sont les chercheurs que j'évoquais plus haut, d'aller plus loin, et avancent donc que le cerveau humain donne sa structure et ses propriétés, et leurs propriétés, aux créations de l'esprit humain, au moins dans une certaine mesure. Elle s'inscrit donc dans une position qui dépasse l'empirisme classique et qu'on pourrait qualifier de naturaliste, et elle s'accorde avec les thèses de Changeux, qui a écrit dans plusieurs ouvrages que notre cerveau contraint toujours notre connaissance théorique. De sorte que l'invention, ou ce qu'on appelle l'invention, est plutôt quelque chose qui est un vecteur d'introspection. L'invention dit des choses sur nous plus que sur la réalité qu'elle prétend décrire. Et on voit là une thèse qui est exactement, aux antipodes de la thèse qui était défendue par Einstein. Pour Einstein, la raison, ce qu'il appelle la raison, donne la structure de la théorie. Selon lui, les concepts sont librement inventés et ne peuvent en aucun cas être déduits a priori ou dérivés des lois de notre activité mentale. Il s'agit pour lui toujours d'une invention libre qui sous-entend que la raison peut se comporter de manière non contrainte, ni par les lois de la psychologie, ni par celles du fonctionnement de notre cerveau. La raison humaine serait même capable, d'après Einstein, sans avoir recours à l'expérience, de découvrir par la pensée seule les propriétés des objets réels. Alors, ça, c'est la fin de mon introduction un petit peu philosophique, disons, pour placer cette question de la connaissance et de son origine entre le sujet et l'objet. Et maintenant, j'en viens à la partie proprement physique. Vous savez que la question qui mobilise le plus de physiciens aujourd'hui dans le monde est de savoir quel est le lien qu'il y a entre les théories qu'ils ont à leur disposition ou qu'ils tentent de construire et la réalité qu'ils prétendent décrire. Et en science, on considère toujours que les faits sont des données primitives avec lesquelles il est impossible de négocier. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que cette relation des théories aux faits est une relation beaucoup plus compliquée qu'on l'imagine. Et je sais que j'ai vu qu'il y avait des lycéens et des étudiants dans la salle. Le sujet de bac qui a été donné en philosophie dans les séries scientifiques l'année dernière, c'était « Peut-on avoir raison contre les faits ?» Et la réponse, c'est oui. De temps en temps. Je crois que beaucoup d'élèves, des amis professeurs de philo m'ont dit que pas mal d'élèves ont parlé de l'affaire DSK. Je ne suis pas sûr que c'était, compte tenu des connaissances qu'on avait sur l'affaire en question au mois de juin dernier, le bon moyen de répondre à cette question philosophique. Alors, comme vous le savez, j'en avais parlé ici même il y a quelque temps, il y a eu au XVIIe siècle une coupure dans l'histoire des idées qu'on appelle la coupure galiléenne. Galilée fait un pari insensé qui est qu'on peut connaître les lois physiques, que les lois physiques peuvent dire le contraire de ce qu'on observe et qu'on peut les exprimer sous la forme d'équations mathématiques. Bon, quand vous regardez autour de vous, un paysage ou le ciel même, vous ne voyez aucune présence qui vous démontre que les mathématiques sont le bon moyen pour comprendre la réalité. Galilée fait cette hypothèse, il écrit que le langage de la nature est écrit en langage mathématique, le livre de la nature est écrit en langage mathématique, c'est un pari fou, que lui-même d'ailleurs n'a pas vraiment exploité, c'est Newton qui va plutôt s'en charger, mais qui va produire un mode de connaissance d'une efficacité extraordinaire. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut décrire l'univers primordial, pas l'univers du tout début, mais on peut quand même raconter une histoire sur 13,7 milliards d'années, grâce au fait que la physique a été mathématisée. Et surtout, et c'est le plus spectaculaire, on a pu prédire, notamment au XXe siècle, en physique, grâce à des arguments de nature mathématique, l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. Par exemple, on a prédit l'existence du photon, il y a un peu plus d'un siècle. On a prédit l'existence des neutrinos, dont on parle beaucoup aujourd'hui. On a pu prédire l'existence du neutron, des bosons intermédiaires qui sont responsables d'une interaction nucléaire. On a pu prédire l'existence des quarks. Il y a 40 ans, on a prédit l'existence du boson de Higgs. Bon, alors lui, vous pourrez être sûr qu'il existe, mais bon, on a quand même pu prédire qu'il existait. Et donc, il y a comme ça une puissance opératoire de la physique qui est tout à fait spectaculaire. Puisque la physique d'aujourd'hui agit comme un treuil ontologique. C'est-à-dire qu'on est capable de prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets. Au XIXe siècle, on a prédit l'existence de nouvelles planètes. Mais on connaissait déjà les planètes. Donc on a prédit l'existence d'un échantillon de planètes supplémentaires dans la série qu'on connaissait déjà. Là, on parle d'objets dont il n'existe pas d'équivalent connu aujourd'hui dans le mobilier ontologique de la physique. Dans le boson de Higgs, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, est une particule qui est décrite par ce qu'on appelle un champ scalaire. C'est un champ à une seule dimension, qui est uniforme, partout le même. On ne connaît aucun objet en physique qui soit décrit de cette façon. Et donc si le boson de Higgs existe, il correspond à un élément de réalité parfaitement inédit qu'on avait pu prédire en physique grâce à des arguments mathématiques. Donc, la physique, grâce à Galilée, grâce à ce geste galiléen dont j'ai parlé, est devenue très efficace. Je pense que ce n'est pas la peine que j'insiste davantage. En quoi elle consiste, cette physique galiléenne, à la base? Un philosophe des sciences que j'aime beaucoup, qui a beaucoup travaillé sur Galilée, qui s'appelle Alexandre Coiré, disait que le pari de la physique moderne, celle qui naît avec Galilée, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire on peut expliquer le réel empirique, le réel tel qu'il se donne à nous par l'observation notamment, par l'impossible, c'est-à-dire par des lois physiques qui, lorsqu'on entend leur énoncé pour la première fois, semblent absurdes. Une loi physique, c'est quelque chose qui, lorsque vous l'entendez pour la première fois, sonne faux. Et parce que c'est toujours en contradiction avec ce que vous pouvez savoir de votre environnement. Je prends un exemple tout simple, la chute des corps. Vous savez, Galilée raconte qu'un disciple d'Aristote, qui s'appelle Corésio, était venu le voir pour l'assurer qu'il avait expérimenté que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. C'est la loi aristotélicienne de la chute des corps. Et effectivement, si vous faites tomber un corps lourd en même temps qu'un corps plus léger, c'est le plus lourd qui va toucher le sol en premier. Donc l'effet ou l'observation sont, de ce point de vue, parfaitement éloquents et vous pousse à édicter une loi de la chute des corps qui est qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus massif, ce qui est d'ailleurs la loi d'Aristote. Et Galilée méprise cette expérience relatée par son interlocuteur et lui répond « Je suis persuadé par ma raison, avant d'être assuré par mes sens, que cette loi est fausse. » On raconte dans beaucoup d'ouvrages, alors je suis allé à Pise récemment et j'ai eu le bonheur de constater que dans les guides de la ville de Pise, depuis 2004, on a supprimé l'image qui était dans les guides édités auparavant, montrant Galilée lançant ses trucs du haut de la tour de Pise. Expérience qu'il n'a jamais faite, et d'ailleurs s'il l'avait faite, il aurait démontré par l'expérience la loi d'Aristote. Donc vous imaginez Galilée convoquant tous les sorbonnards de l'époque qui étaient aristotéliciens, pour leur démontrer qu'Aristote avait raison. Donc il n'a absolument pas fait cette expérience. Par contre, il a réfléchi. Et il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui une expérience de pensée, qui consiste à regarder quelles seraient les conséquences de la loi d'Aristote si la loi d'Aristote était vraiment vraie. Et donc il suppose qu'Aristote a raison, et il se propose de laisser tomber en même temps une boule de pétanque et une balle de tennis qu'il a reliées l'une à l'autre par une corde. Et donc il fabrique ici un système qui est plus lourd que la boule de pétanque. Et donc si Aristote a raison, en laissant tomber ce système, il va atteindre une vitesse qui est plus élevée que la vitesse de la boule de pétanque quand elle est toute seule, en train de tomber. Mais en même temps, pendant la chute, la balle de tennis qui tombe moins vite va tendre la corde, faire parachute, et faire en sorte que le système tombe moins vite que la boule de pétanque. Et donc si la loi d'Aristote est juste, j'aboutis pour ce qui est de cette expérience de pensée à deux conclusions qui sont contradictoires l'une avec l'autre. Et Galilée énonce une nouvelle loi de la chute des corps, qu'on appelle l'universalité de la chute libre, qui dit que tous les corps tombent à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Et cette loi est contradictoire avec l'observation, avec les faits. Et nombreux ont été ceux qui sont venus l'expliquer à Galilée, qui a dit non, ma loi est juste, ce sont les faits qu'il faut réinterpréter. Ce sont les faits qu'il faut réinterpréter. Quand vous faites tomber vos boules de pétanque et vos balles de tennis, certes la gravité est la force qui provoque la chute, mais s'ajoutent à cette force d'autres effets liés notamment à la présence de l'air, et c'est seulement ces effets, ce sont seulement ces effets-là qui créent une différence de chute entre la boule de pétanque et la balle de tennis. Et d'une certaine façon, la chute des corps, la vraie loi de la chute des corps, ne se voit jamais, sauf si vous faites le vide, ou sauf si vous allez sur la Lune, où il n'y a pas d'atmosphère. Donc la chute des corps et au sens propre du terme, hors du spectacle. Et d'ailleurs, la chute des corps, c'est l'anagramme de hors du spectacle. Bon, c'était long à amener, mais j'y suis arrivé. Bon, tout ça pour dire que cette question de la relation entre les théories ou les lois Et l'effet est compliqué par le fait que les faits sont toujours enrobés d'une gangue d'interprétations qui peut nous tromper. Si les faits sont mal interprétés, ils peuvent nous faire croire à des lois qui sont fausses. Et d'autre part, deuxième difficulté, comme je l'ai montré sur cet exemple, les lois physiques sont contradictoires avec l'intuition, l'observation, l'opinion. Elles sont contradictoires avec nos préjugés les plus familiers. Et donc, on a tendance à les discréditer, à les rejeter d'emblée parce qu'elles semblent contradictoires avec le bon sens qui nous vient de l'observation des phénomènes naturels. Alors, Lionel Nakache, qui est un spécialiste des neurosciences, a publié très récemment un ouvrage qui s'appelle « Perdons-nous connaissance ». Et ce qu'il a montré par des expériences de neurosciences, c'est que, et ça explique peut-être pourquoi la vulgarisation scientifique a tant de mal à être efficace, c'est que lorsque notre cerveau, qui à propos de certains sujets a développé certaines croyances, en tant que quelqu'un, un scientifique, lui expliquer à propos de ces phénomènes pour lesquels il a une croyance bien définie, bien arrêtée, lui explique lui donne d'autres informations argumentées, objectivées par la démarche scientifique. Et donc cette personne, ce scientifique, va montrer à la personne en question que ses croyances sont fausses. Et la personne qui entend le message va tout de suite sentir que ce qu'il lui a raconté là est en contradiction avec ses croyances. Mais il va en fait accepter le message au prix d'une modification qui va le rendre non pas identique à ses croyances, mais compatible avec ses croyances. Autrement dit, notre cerveau développe toutes sortes de stratagèmes pour préserver son confort psychique. Et comme les vérités scientifiques, enfin les lois de la science, peut-être pas les vérités, mais les lois de la science, sont assez dérangeantes, nous les intégrons, évidemment, mais elles restent à la périphérie de notre cerveau. Nous savons tous que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, mais nous ne vivons pas consciemment avec cette idée. Tous les jours, nous vivons avec l'idée que la Terre est le centre. Nous sommes des êtres géocentrés, en fait. Et donc, les vérités scientifiques sont périphériques à notre champ de connaissances conscient. Elles sont là, mais de façon relativement froide, comme si elles avaient été éteintes par l'effort que fait notre cerveau pour préserver son confort psychique. Et vous voyez qu'avec la théorie de la relativité d'Einstein ou la mécanique quantique, c'est encore pire. La mécanique quantique s'appuie sur des principes complètement absurdes, dont on ne voyait d'ailleurs aucune contrepartie dans la réalité, macroscopique en tout cas. La chute des corps de Galilée, on peut être surpris par son énoncé, surtout quand on est quelqu'un qui vit au XVIIe siècle. Mais aujourd'hui, il suffit de faire une expérience dans le vide et on voit bien que Galilée a raison. Ou bien il suffit de regarder les astronautes américains qui, en hommage à Galilée d'ailleurs, ont laissé tomber de leur poche en même temps une plume de faucon et puis une bille de plomb. Et les deux sont arrivés en même temps sur le sol lunaire. Par contre, la mécanique quantique, qui vous dit que si A et B sont deux états possibles d'un système, A plus B est aussi un état possible du système. Par exemple, si une particule peut être ici et si elle peut être là, elle peut être là plus là. On ne sait pas ce que ça veut dire. D'accord ? Et donc, comment est-ce que on a pu construire la théorie quantique ? Comment est-ce que des physiciens des années 20, peu nombreux, ont pu inventer de nouveaux concepts, de nouveaux formalismes en physique, sans bénéficier d'aucune impulsion empirique ? Ça, c'est la grande question. Alors, on dit que ce sont des génies. Oui, mais quand même, il doit y avoir, même chez les génies, des matrices créatrices qui permettent de fabriquer de tels concepts. Même si on doit reconnaître que l'acte de création, l'acte d'invention des idées, reste sans doute mystérieux. Alors, je ne veux quand même pas aller jusqu'au point de dire qu'il suffirait de dire ou de prononcer un énoncé physique a priori aberrant pour qu'il soit vrai. Parce que ça, c'est souvent ce que croient les étudiants. D'accord ? Alors, Niels Bohr, d'ailleurs, dans la période la plus effervescente de la mécanique quantique, de sa naissance dans les années 20, disait à ses étudiants qui avançaient des hypothèses ou des propositions d'équations, par exemple, il rejetait ces propositions en disant « ce n'est pas assez dingue ». Bon. En fait, il faut se méfier, c'est-à-dire, quand on regarde son histoire, la physique n'a jamais cessé de louvoyer entre empirisme et rationalisme. Les deux sont nécessaires, il y a une dialectique entre l'expérience et la théorie, que d'ailleurs Galilée avait amorcé. Et c'est donc moins l'opposition aujourd'hui entre raison et expérience qui agite l'épistémologie de la physique que la question de savoir jusqu'à quel point, en physique, on a le droit d'aller au-delà des faits. Et c'est sur cette question que je voudrais m'attarder un petit peu, parce que, comme vous le savez, en physique, on a des théories qui sont parfaitement validées. Je ne dis pas qu'elles sont vraies. Je dis qu'à ce jour, elles n'ont jamais rencontré de contradiction lors d'une expérience qui aurait été faite pour les tester. Je laisse les neutrinos du CERN de côté pour l'instant. C'est vrai pour la théorie de la relativité et c'est vrai pour la mécanique quantique. Voilà deux théories. La première qui fournit un formalisme général de l'espace-temps. La seconde qui décrit les interactions entre particules à l'exception de la gravitation. Voilà, vous avez deux théories qui sont parfaitement valides, toujours vérifiées. Et il me semble qu'on ne peut pas comprendre l'efficacité opératoire de ces théories sans imaginer qu'il y a dans la réalité physique quelque chose de quantique et quelque chose de relativiste. Je ne veux pas dire que la réalité est quantique et relativiste. Je veux dire que si je rejette l'argument du miracle, la coïncidence miraculeuse, entre une théorie qui dirait n'importe quoi et des expériences qui conforteraient ces dires et ce n'importe quoi, si je refuse l'hypothèse du miracle, je ne peux pas éviter d'imaginer que dans la réalité que nous testons, il y a quelque chose qui répond de façon quantique. Et pareil pour la relativité. Et donc, on pourrait dire que là, on a un mode de connaissance qui est sans doute le mode maximal. C'est-à-dire, il me semble qu'on ne peut pas avoir de connaissances plus assurées que les connaissances de ce type-là. Mais il faut être prudent parce que, comme vous le savez, nous savons que ces théories ne sont pas complètes. Nous le savons. C'est-à-dire, nous savons, par exemple, que la mécanique quantique ne sait pas décrire la gravitation. Et nous savons par ailleurs que la théorie de la relativité générale qui décrit la gravitation ne peut pas décrire les interactions décrites par la mécanique quantique. De sorte qu'aujourd'hui, la physique, un peu comme celle de la fin du XIXe siècle, repose sur deux piliers qui sont contradictoires l'un avec l'autre. Au XIXe siècle, c'était la mécanique et l'électromagnétisme. Et la solution de cette contradiction, ça a été la théorie de la relativité restreinte par Einstein. Et aujourd'hui, il y a une contradiction entre physique quantique et relativité générale. Et on ne sait pas exactement comment on peut résoudre cette contradiction. Évidemment, depuis 40 ans, des gens cherchent. Alors, pendant quelques années, ils ont cherché à unifier la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale en conservant un espace-temps classique à 4 dimensions, en ajoutant éventuellement des symétries supplémentaires, et à chaque fois, ça a échoué. Et constatant que ça a échoué à chaque fois, ils se sont résolus à faire des hypothèses très audacieuses, parmi lesquelles on trouve l'hypothèse selon laquelle l'espace-temps aurait plus que 4 dimensions. C'est par exemple l'idée de la théorie des supercordes, qui consiste à imaginer qu'il y a 10 dimensions d'espace-temps, donc 6 de plus que dans l'espace-temps ordinaire, les 6 supplémentaires étant repliées sur elles-mêmes sur des dimensions très courtes, et l'ontologie en l'occurrence de la physique serait très simple. Toutes les particules ne seraient qu'une particule, qui serait une corde vibrante avec différents niveaux de vibration, dont chacun correspond à une énergie, à une masse, qui donne les particules que nous connaissons. D'accord ? Donc l'idée, c'est que la matière est vibrante et se déplace dans un espace-temps de 10 dimensions. Bon. La question, c'est... Il y a d'autres hypothèses que je ne vais pas développer là, mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour tester une théorie comme la théorie des supercordes. Quand on regarde l'histoire de l'univers, et qu'on plutôt, quand on remonte dans le passé en extrapolant les équations vers le passé, si on part des équations d'Einstein pour la relativité générale, qui décrit la gravitation, le calcul est très simple, et quand vous remontez le temps, vous voyez que dans le passé, l'univers est de plus en plus chaud, de plus en plus énergétique. La densité d'énergie est de plus en plus grande. Et puis arrive un moment où la taille de l'univers s'annule, ce qu'on appelle une singularité, et c'est ce moment-là qu'on appelle le Big Bang, on l'associe à l'instant zéro, etc. Sauf que, avant d'atteindre cette singularité, votre univers rencontre des conditions physiques dans lesquelles l'énergie des particules est très élevée. Et comme l'énergie des particules est très élevée, elles subissent toutes les forces nucléaires, les forces électromagnétiques, pas seulement la gravitation. De sorte que la théorie d'Einstein qu'on utilisait pour faire la cosmologie devient fausse à ce moment-là. Non pas qu'elle est mathématiquement fausse, on peut faire des calculs, mais elle devient physiquement incomplète puisqu'elle ne peut plus décrire les conditions physiques dans lesquelles sont les particules dans l'univers primordial. Or, il se trouve que la théorie des supercordes, elle nous permet de faire des prédictions sur ce qui s'est passé dans cette phase très, très primordiale qu'on appelle le mur de Planck. La question est de savoir comment on fait pour savoir si ce qu'elle nous dit est juste ou non. Alors la solution est très simple, on fait des collisions de particules. On fait des collisions de particules comme au CERN et on recrée ainsi dans un petit volume les conditions physiques de l'univers primordial. Vous pouvez visiter le CERN, il va être bientôt arrêté, donc c'est le moment d'y aller. Le LHC a coûté 3 milliards d'euros, l'anneau fait 27 km de circonférence, les expériences sont dans deux cavernes gigantesques dont le volume est supérieur au volume de Notre-Dame, les détecteurs pèsent 50 000 tonnes et la distance des câbles au sein d'un seul détecteur est plus grande que la distance Terre-Lune. Donc c'est un gros instrument. Que font les protons dans la machine ? Ils atteignent la vitesse de la lumière. Quelle est leur énergie si, enfin en ce moment c'est 3,5 téraélectronvolts, 3,5 000, 3500 milliards d'électronvolts. L'électronvolt, c'est l'unité qu'on utilise en physique des particules. Mais cette énergie, ça correspond exactement à l'énergie d'un moustique en vol. D'accord ? Donc une collision de moustiques au sein du LHC recrée les conditions physiques de l'univers primordial. Ça ne veut pas dire qu'on remonte dans le passé, ça veut dire qu'on recrée dans le présent les conditions physiques du passé, et donc on voit ce qui s'est passé dans l'univers primordial. Alors pourquoi on ne le fait pas avec des moustiques ? C'est parce que dans un moustique, toute l'énergie est distribuée sur les milliards et les milliards d'atomes et de particules qui constituent le moustique, alors que dans le cas du LHC, c'est un seul proton qui porte toute l'énergie. Donc l'énergie est concentrée sur des particules très petites, et donc on a une densité d'énergie très élevée, comme dans l'univers primordial. Et donc vous voyez, tout l'effort qu'il faut pour amener des particules à l'énergie cinétique d'un moustique en vol. Or, quelle est l'énergie des particules ou qu'avaient les particules au moment où l'univers a franchi le mur de Planck ? Cette énergie, c'est en moyenne l'énergie d'un TGV en circulation. Vous voyez la différence ? Moustique, TGV. D'accord ? Donc nos moyens expérimentaux sont énormes. Si vous allez visiter le CERN, vous verrez qu'ils sont vraiment énormes. Mais ils sont ridicules par rapport aux énergies dont il faudrait disposer pour savoir si la théorie des supercordes est la bonne théorie ou pas, ou si c'est une conjecture, ce que j'appelais tout à l'heure une métaphysique mathématique. Alors, il y a d'autres possibilités, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le satellite Planck aujourd'hui mesure très finement les propriétés de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, la lumière primordiale en quelque sorte, mesure sa polarisation, et ça pourrait nous donner indirectement, même si ce rayonnement a été libéré 380 000 ans après le Big Bang, des indications sur ce qu'étaient les conditions physiques dans l'univers primordial. Donc peut-être que par cette lumière, on pourra avoir des indications qui permettront au moins partiellement de tester la théorie des supercordes. Alors, je terminerai par un autre problème qui est celui du LHC et du boson de Higgs. Le LHC a été construit pour découvrir le boson de Higgs. Alors, le boson de Higgs, c'est quelque chose de très compliqué. Si vous regardez ce qu'on appelle le lagrangien du modèle standard de la physique des particules, dans le dernier numéro de Science et Avenir hors série, qui est consacré aux mathématiques, vous verrez une magnifique photo d'un mathématicien français qui s'appelle Alain Cohn, qui a remporté la médaille Fields il y a quelques années, devant un transparent sur lequel il a écrit l'intégralité du lagrangien du modèle standard. Donc c'est une vingtaine de lignes avec des signes cabalistiques. Voilà ce que c'est que le lagrangien du modèle standard. Et dedans, il y a le boson de Higgs. Alors, c'est très compliqué, mais ça peut être expliqué d'une façon assez simple, parce que la démarche qui a été suivie par les physiciens des particules est exactement la même que celle de Galilée. Souvenez-vous de la chute des corps. On explique que c'est l'interaction des corps qui tombent avec l'environnement, c'est-à-dire l'air, qui crée la différence de vitesse entre les plus lourds et les plus légers. Ce n'est pas la chute des corps elle-même, ce n'est pas la gravité, c'est l'interaction avec l'environnement. Bon. Eh bien, dans les années 60, quand on a mis sur pied ce modèle standard de la physique des particules, à partir de principes mathématiques très puissants, qu'on appelle les théories de jauge, qui d'ailleurs oblige à s'interroger, ça fait partie du sujet, de la raison pour laquelle, ou grâce à laquelle, les mathématiques en physique sont si puissantes. Pourquoi est-ce que les mathématiques en physique sont si puissantes? Il y a des tas d'hypothèses qui peuvent être avancées, peut-être qu'on pourra en discuter au moment des questions, mais ce que je retiens là, c'est que ce modèle standard permettait de faire des prédictions assez précises sur ce qu'on pourrait observer lorsqu'on fait des collisions de particules. Et toutes ces prédictions étaient vérifiées à chaque fois qu'on construisait un accélérateur d'énergie de plus en plus élevée, etc. Donc on avait un modèle qui marchait parfaitement et qui décrivait les interactions que subissent les particules à partir de propriétés de symétrie décrites par des groupes mathématiques, enfin je ne vais pas entrer dans les thèses, qu'on appelle les théories de jauge. Ça marchait très bien. Sauf que des physiciens ont regardé quelles étaient les implications des principes mathématiques qui sont à la base du modèle standard. Un peu comme Galilée qui se demande quelles sont les implications de la théorie d'Aristote sur la chute des corps. Si cette théorie est juste, qu'est-ce qu'elle implique? Et ce qu'ils ont constaté, c'est que ces théories, très efficaces pour sauver les phénomènes, impliquent que la masse de toutes les particules doit être nulle. Voilà, vous avez une théorie efficace qui rencontre des expériences, mais qui vous dit en même temps que la masse des particules élémentaires doit être nulle. Ce qui est évidemment contradictoire avec l'observation ou les mesures. Quand on mesure la masse d'un électron, on trouve quelque chose qui est différent de zéro. Quand on mesure la masse d'un quark, c'est pareil. D'un neutrino, c'est pareil. Toutes les particules de matière ont des masses non nulles. Et donc, il y a une contradiction entre les faits, la mesure et la théorie. Et comme d'habitude, nombreux ont été ceux qui ont dit « la théorie est fausse ». Il faut changer la théorie. Comme on l'a dit à Galilée, proposant sa nouvelle loi pour la chute des corps. Mais heureusement, il y a trois physiciens, théoriciens, l'un qui s'appelle Higgs, qui a à voir avec le boson de Higgs, deux autres qui s'appellent Englert et Brout, qui se sont dit « mais n'oublions pas que le pari de la physique, c'est d'expliquer le réel par l'impossible ». Et donc il se pourrait que ces équations qui semblent absurdes et incohérentes, en fait, disent la vérité. À savoir, les particules n'ont pas de masse. Et c'est nous, les physiciens, qui nous sommes trompés depuis Newton sur ce que signifie avoir une masse. Et ils ont fait comme Galilée. Ils ont réinterrogé la notion de masse. De même que Galilée avait réinterrogé l'expérience de la chute des corps. Et donc ils ont fait l'hypothèse que les particules pourraient ne pas avoir de masse, contrairement à ce qu'on apprend à l'école. On apprend à l'école qu'il y a un lien intrinsèque presque entre l'idée de masse, l'idée de substance et l'idée de matière. Une particule de matière possède sa masse, elle lui appartient en propre. Elle fait partie de ses qualités fondamentales, de son essence, on pourrait dire. Et ce que disent ces physiciens, c'est que tout ça est peut-être faux. Peut-être que la masse est une propriété secondaire des particules. Et ce qu'ils ont proposé comme idée, c'est que le vide, c'est-à-dire l'espace-temps sans rien, en fait n'est pas vide. Il contient le fameux champ de Higgs dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un champ homogène qui a la même valeur partout, partout présent dans l'espace, avec lequel les particules sans masse, qui normalement devraient aller à la vitesse de la lumière, en fait interagissent plus ou moins. Si elles interagissent très fortement, elles seront ralenties par l'interaction, ce qui leur donnera de l'inertie et donc de la masse. Et si elles interagissent très faiblement, elles auront peu de masse. Donc, ces gens proposent d'expliquer les valeurs différentes des masses de toutes les particules en expliquant que ces masses viennent de leur interaction avec l'environnement, qui en l'occurrence n'est plus l'atmosphère avec l'air qu'elle contient, mais le vide quantique avec un champ particulier qui est responsable de l'impression que nous avons que les particules ont une masse non nulle. Et comme vous le savez, en physique quantique, à tout champ sont associés des quantas, et les quantas du champ de Higgs, ce sont les fameux bosons de Higgs. Quand vous êtes au bureau, parce qu'on a tous nos bosons de Higgs, hein, quand vous êtes au bureau et que vous rencontrez un collègue, enfin vous voyez dans le couloir que vous allez croiser un collègue, et vous savez qu'avec lui, c'est 10 minutes minimum, quoi. C'est votre boson de Higgs. C'est-à-dire le fait d'interagir avec lui va freiner votre déplacement. Et pour quelqu'un qui vous observera de très haut, il se dira, tiens, lui, là, il marchait bien, il allait à la vitesse de la lumière, et tout d'un coup, il a pris de la masse. En fait, c'est simplement que vous avez interagi avec le boson de Higgs. Donc on cherche ces particules, et voilà, on ne les trouve pas, bien que le LHC nous donne assez d'énergie pour l'avoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais on est quand même très surpris de ne pas l'avoir encore découvert. Et la physique est une science expérimentale, et donc si le boson n'existe pas, et si on le démontre, il faudra en prendre acte et comprendre autrement d'où vient que les particules ont une masse. Bon. Et pour finir, je voudrais encore vous montrer que la question est très compliquée, encore plus que ce qu'on raconte, c'est que très souvent, on rencontre une contradiction entre la théorie, ce que dit la théorie, et les faits, sans être capable de dire s'il manque quelque chose dans l'interprétation des faits, ou si c'est la théorie qui est fausse. Je vous donne très rapidement trois exemples qui sont de la même espèce. Premier exemple, fin des années 20, on commence à bien comprendre ce qu'on appelle la radioactivité bêta. C'est le fait qu'un noyau d'atomes est capable d'émettre un électron. Donc vous voyez un noyau qui change de nature, il change d'élément chimique. Par exemple, vous aviez du potassium 40, ça devient brutalement du calcium 40. Vous avez un noyau qui change d'appartenance chimique. Et en même temps qu'il y a cette transformation, vous voyez un électron qui sort du noyau. Ce qu'on appelle la radioactivité bêta. Et à la fin des années 30, des années 20, pardon, on comprend que ce phénomène, c'est en fait un neutron du noyau qui se transforme en proton avec émission d'un électron. Donc, dans le calcium, il y a 20... Dans le calcium 40, il y a 20 protons et 20 neutrons. Non, pardon, il y a 19 protons et 21 neutrons. Un des neutrons devient un proton. Donc à la fin, on a 20 protons, 20 neutrons, ce qui fait du calcium 40, avec l'électron qui sort. Donc c'est un neutron qui devient un proton plus un électron, c'est une désintégration en deux corps. On calcule, c'est-à-dire on suppose que l'énergie est conservée, et un calcul très simple nous dit que l'énergie de l'électron, dans tous les cas, quel que soit l'élément chimique, doit être la même. Elle ne dépend que des masses des trois corps mis en jeu dans cette désintégration, la masse du proton, la masse du neutron, la masse de l'électron, ça va être toujours la même énergie. Une physicienne qui s'appelle Lise Meitner fait des mesures et s'aperçoit que l'énergie de l'électron change d'une désintégration à l'autre. Il y a tout un spectre de valeurs possibles et non pas une valeur fixe. Devant cette situation, qu'on a appelé le puzzle de la radioactivité bêta, qu'est-ce qu'on fait? La plupart des physiciens, parmi les plus grands d'ailleurs, Niels Bohr en premier, disent c'est la preuve qu'au niveau microscopique, l'énergie n'est pas une grandeur conservée. Donc, vous changez la loi. Et donc, devant cette contradiction, il propose une solution législative. On change la loi pour s'adapter aux faits. Mais heureusement, un jeune physicien qui s'appelle Wolfgang Pauli, qui était très jeune à l'époque, en pleine dépression nerveuse, parce que sa femme qu'il venait d'épouser l'avait quitté pour un chimiste. Non mais il paraît que pour un physicien théoricien, c'est ce qu'il y a de pire. Donc il est devenu alcoolique, etc. Il s'est quand même intéressé dans ses heures de lucidité à ce problème et il a écrit une lettre très célèbre aux physiciens qui étaient réunis en colloque à Tübingen en Allemagne pour discuter de ce problème. Une lettre que vous pouvez trouver dans tous les livres qui est manifestement écrite en état d'ébriété, qui dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi, mais dans cette lettre où il dit n'importe quoi, il y a une pépite. Il dit « J'ai réfléchi au problème de la radioactivité bêta et je vous invite, peuple radioactif, je cite, à considérer l'hypothèse que dans cette désintégration, il y aurait peut-être émission d'un troisième corps. » Et donc il fait l'hypothèse que quand un neutron devient un proton avec émission d'un électron, il y a une troisième particule qui est émise, qui emporte l'énergie manquante, et si on y en tient compte, alors l'énergie est conservée. Et cette particule, on va la découvrir dans les années 50 grâce à la mise en service du premier réacteur nucléaire américain, en 54, et on l'appelle le neutrino, qui est un mot italien pour dire le petit neutron, le petit du neutron. D'accord ? Et vous voyez que la solution que propose Pauli, ce n'est pas une solution législative, c'est une solution ontologique. C'est-à-dire, quand je vois une contradiction, je dis qu'il doit y avoir dans l'univers quelque chose que je n'ai pas encore vu, qui, s'il existe, résout la contradiction entre la théorie et les faits. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a deux grands freins à la connaissance en physique qui viennent justement d'une contradiction entre l'observation et la théorie. La première chose, c'est la matière noire. Quand nous regardons les galaxies, quand nous regardons leur mouvement les unes par rapport aux autres, ou bien le mouvement qu'elles ont sur elles-mêmes, on s'aperçoit que nos équations, celles d'Einstein pour la gravitation, fonctionnent parfaitement, c'est-à-dire rendre compte exactement du mouvement observé, à condition de mettre dans les équations 10 fois plus de masse que celle qu'on voit. C'est bizarre. Il faut rajouter de la masse dans les équations pour qu'elles fonctionnent. Alors pendant longtemps, on a appelé cette matière supplémentaire, ou cette masse qu'on doit injecter dans les équations pour rendre compte des observations, on l'a appelé la masse sombre, la matière sombre ou la masse cachée. Et on pensait que c'était de la matière ordinaire, donc faite d'atomes, protons, neutrons, électrons, etc., mais tellement froide qu'elle ne pouvait pas émettre de lumière. Or, pour mesurer la masse d'une galaxie, on compte les étoiles, on fait une estimation de la masse des étoiles, et par intégration, on a la masse de la galaxie tout entière. Et on se dit, bah, peut-être qu'il y a de la masse froide, c'est de la matière ordinaire, mais froide, donc invisible. Et cette histoire a duré pendant des décennies, et à la fin des années 90, on a acquis la certitude que cette matière sombre, si elle existe, n'est pas de la matière ordinaire. C'est ça qu'on l'appelle de la matière noire, d'ailleurs. On ne sait pas ce que c'est. Alors, on a des idées sur ce que ça pourrait être. Mais vous voyez que, devant la contradiction que j'ai évoquée, le premier réflexe, c'est d'invoquer une solution ontologique. On dit, dans l'univers, il y a une matière qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas identifiée, de nature inconnue, et il suffit de la postuler pour que la contradiction disparaissent. Mais comme, je le répète, la physique est une science expérimentale, il faudra un jour identifier cette matière noire. Ça peut être des particules supersymétriques. Pour l'instant, on n'a pas vu au LHC, donc c'est embêtant, mais voilà. Et comme on ne la trouve pas, vous trouverez toujours des physiciens plus empiristes que les autres qui diront, vous n'avez pas le droit de mettre dans votre théorie des fantômes. De même qu'on disait à Boltzmann au XIXe siècle, vous n'avez pas le droit de mettre dans votre interprétation de la thermodynamique des atomes que personne n'a jamais vus. Vous n'avez pas le droit de mettre dans votre théorie des objets dont vous n'avez pas connaissance. Et ces gens proposent de modifier les lois de la gravitation les lois de la relativité générale pour intégrer les faits sans qu'ils deviennent contradictoires avec la théorie. Et on change la théorie. Donc ils proposent une solution législative. Lesquels ont raison ? On ne le sait pas encore. La majorité sont pour la matière noire. Il y a une minorité pour changer les lois. On ne sait pas encore qui a raison. Le même problème se pose pour l'énergie noire, qui a eu le prix Nobel, comme vous le savez, il y a 15 jours. Découverte en 1998, on a découvert que l'expansion de l'univers, connue depuis les années 30, s'accélère sous l'effet d'un moteur de nature inconnue qu'on appelle l'énergie noire. Bon, mais on peut aussi bien postuler que cette énergie noire n'existe pas et que ce sont les lois qui ont obligé à croire en son existence qui sont fausses. C'est vrai que c'est très subtil et que du coup, acquérir des connaissances sur ces questions, ça demande des efforts énormes en investissement. Il faut concevoir des instruments, alors soit des instruments embarqués sur des satellites, des caméras spéciales comme le satellite Planck ou d'autres, ou bien des accélérateurs comme le LHC. Et la question est de savoir jusqu'à quel point notre libido collective pour ces connaissances est forte. En période de crise, bon, je ne vais pas insister là-dessus, quel est l'effort que nous sommes collectivement prêts à consentir pour répondre à ce genre de questions ? Bon, ça c'est un vrai problème. Bon. Mais enfin, pour être optimiste, je terminerai par les neutrinos. Vous avez entendu parler de cette annonce faite il y a un peu plus d'un mois par le CNRS, puis par le CERN, selon laquelle des neutrinos émis par le CERN à Genève et détectés au Grand Sasso à 750 km en Italie ont, semble-t-il, dépassé la vitesse de la lumière. Alors, c'est un bon exemple, d'abord parce qu'il a engendré toutes sortes de réactions intéressantes à étudier, de la part des physiciens, de la part des médias, qui sont intéressantes, mais aussi parce que cet événement montre qu'il y a des choses que nous connaissons vraiment bien. J'en veux pour preuve le fait que ces neutrinos qui sont produits par l'interaction de protons de haute énergie qu'on envoie sur une cible de carbone, il y a des réactions nucléaires qui provoquent l'apparition de ces neutrinos, parcourent 750 km. On les détecte dans une caverne au sein de laquelle il y a un énorme détecteur. Et on constate que s'ils avaient fait la course avec des photons, avec la lumière, ils seraient arrivés avec 20 mètres d'avance. 20 mètres d'avance sur 750 km. C'est-à-dire, si on parle en temps, c'est 60 nanosecondes d'avance par rapport à un trajet qui normalement prend 2,4 millisecondes. C'est quand même des pouillèmes. 20 mètres d'avance sur 730 km. On met ça sous le tapis, on ne dit pas que c'est un problème, on dit que c'est une anomalie, un problème de mesure. Mais là, les gens disent, tiens, on a un gros problème. Peut-être qu'Einstein s'est trompé sur la vitesse de la lumière, qui ne serait pas une vitesse limite. Ça veut dire que on connaît tellement bien la relativité que lorsqu'elle est, semble-t-il, bafouée, même d'une quantité vraiment négligeable, ça correspond à 7 km par seconde de plus que la vitesse de la lumière, qui fait 300 000 km par seconde. Les gens s'affolent et disent « Dites-nous où on a fait une erreur dans la mesure ou on met le bazar dans les théories. » Ça a engendré toutes sortes de réactions qui montrent ce que j'appellerais l'autopuissance de la physique. Je veux dire par là que si vous regardez sur Internet tous les articles, une centaine, qui ont été mis par des physiciens prétendant expliquer le résultat de l'expérience, prétendant l'insérer dans une nouvelle théorie, prétendant l'expliquer par de vieilles théories, ou prétendant expliquer par où l'expérience a pu se tromper, jamais les gens ne vont chercher d'arguments ailleurs que dans la physique. Et c'est ça que j'appelle l'autopuissance de la physique. C'est que les connaissances qui ont été acquises là constituent un champ au sein duquel on vient puiser pour résoudre les problèmes qui se posent dans le champ. Alors évidemment ça peut aller dans toutes les directions. Il y a des gens qui auront réinterrogé les principes de la relativité générale. Comment est-ce qu'on synchronise les horloges à distance? Est-ce qu'on a bien tenu compte de la rotation de la Terre, du fait que Genève est et Rome ne sont pas à la même latitude, de la vitesse relative des satellites GPS, etc. Tout a été envisagé. Je ne dis pas qu'on a trouvé la solution, mais il y a eu récemment, il y a deux jours seulement, un article posté par deux ingénieurs israéliens, et je pense qu'ils ont trouvé le truc. Qui est un truc tout basique, qui est que ces protons sont envoyés sur une cible, comme je l'ai dit, une cible de carbone qui fait 2 mètres de long. Le faisceau de protons dure 10 microsecondes, ce qui est un temps très long pour un faisceau de protons. Donc pendant 10 microsecondes, il y a une rafale de protons qui arrive sur la cible. Ça déclenche des réactions nucléaires qui finissent par produire les neutrinos dont j'ai parlé. Et ce qu'ont fait les physiciens de cette expérience qui s'appelle OPERA, c'est de mesurer la forme temporelle des paquets de protons qui arrivent au CERN, de mesurer la forme temporelle des neutrinos qui sont détectés au Grand Sasso, de faire des petits réglages pour que les deux courbes se ressemblent le plus possible, et de mesurer à quel temps de vol, quel est le temps de vol qui sépare la première impulsion de protons des impulsions de neutrinos qui sont détectées à 730 km. Mais ils supposent, dans ce calcul, que tous les protons qui viennent dans la cible provoquent, quelle que soit leur position dans le paquet, le même taux de neutrinos. Or, quand on fait un petit calcul de thermique, tout simple, on s'aperçoit que l'énergie des protons est tellement forte qu'en fait, les premiers protons font immédiatement fondre le carbone, que du coup, la densité de matière que traversent les derniers protons est plus faible que la densité de matière que traversent les premiers protons du paquet, et que du coup, le taux de neutrinos qui est produit par l'arrière du paquet est plus faible que celui produit par l'avant. Vous faites un calcul tout simple, vous regardez, vous supposez que, c'est pas vérifié, hein, ce que je dis c'est une hypothèse, mais il se pourrait que ce soit la bonne explication, faites l'hypothèse que les premiers protons créent 7% de plus de neutrinos que les derniers, pour rendre compte du décalage de 60 nanosecondes à l'arrivée au Grand Sasso. D'accord ? Donc je trouve que c'est une belle histoire, parce que si c'est le cas, c'est vraiment un petit problème de thermique qui est la solution du problème, et qui montre que les médias se sont un petit peu enflammés, peut-être trop vite. Mais ce n'est pas forcément une bonne chose, à condition évidemment qu'ils disent la fin de l'histoire. Puisque du coup, il y a beaucoup plus de Français qu'il y a deux mois qui savent aujourd'hui ce que c'est qu'un neutrino. Voilà, reste une question que je n'ai pas eu le temps d'aborder. C'est quelle que soit la théorie de la connaissance à laquelle vous croyez, quelle que soit la part que vous faites à l'objet ou au sujet dans la construction d'un savoir, il reste une question entière, c'est d'où viennent les idées scientifiques. Voilà, ça sera ma conclusion.
L'Agora des savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.